Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous, au sommaire ce soir. Au Mali, 33 soldats tués dans l'attaque la plus meurtrière de l'année dans le nord-est du pays. Au Tchad, l'opposant Succès Masra reçu par le président Idriss Déby Itno, les réactions sont en boucle chez les transformateurs. Au Congo-Brazzaville, les militaires votent par anticipation pour la présidentielle de dimanche. Le président tunisien Kais Saied a effectué une visite en Libye, c'est une première depuis une décennie. Le président Joe Biden dit penser que son homologue Vladimir Poutine est un tueur, ce qui suscite l'indignation de Moscou. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, un hommage national est rendu à Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre décédé le 10 mars dernier. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du palais présidentiel à Abidjan, en présence du président Ouattara et plusieurs chefs d'État voisins étaient également présents, dont le Burkinabé Roch Marc-Christian Kabore, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé. Surnommé Ambak, le cercueil d'Ahmed Bakayoko, recouvert du drapeau ivoirien et un immense portrait de lui, ont été installés une demi-heure après le début de la cérémonie dans la soirée. Et jusqu'à l'aube, jeudi, ce sera à l'hommage de musiciens dont Alpha Blondy, Magic System, Koffi Olomide, Sidiki Diabaté et Fally Ipupa. Au Mali, le bilan de l'attaque lundi dans le nord-est, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, s'est alourdi. Au moins 33 soldats ont été tués. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un précédent bilan faisait état de 11 morts, 11 disparus et 14 blessés. Ce bilan n'a cessé de s'aggraver depuis un premier communiqué publié tard lundi, plusieurs heures après l'attaque contre la relève du poste de Tessit au sud-ouest d'Ansongo. La relève est tombée dans une embuscade tendue par une centaine d'hommes à bord de pick-up et sur des motos. Un commandant local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a indiqué que 13 corps de terroristes ont été retrouvés sur le terrain. C'est l'une des attaques les plus meurtrières contre les forces armées maliennes cette année. Aussi, le Niger voisin est en deuil après l'attaque meurtrière dans la région de Tillabéri qui a fait au moins 58 morts. Les victimes revenaient d'un marché hebdomadaire près de la frontière malienne. Ces deux attaques ont eu lieu dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali où sévissent des groupes djihadistes depuis plusieurs années.
Pour l'attaque au Niger, des individus armés ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou. Ce sont les premières violences depuis l'élection de Mohamed Bazoum qui doit prêter serment le mois prochain à Niamey. Toujours au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou a inauguré à Niamey une centrale électrique thermique à pétrole censée réduire la forte dépendance en électricité de son pays voisin, le Nigeria. La capitale Niamey et plusieurs autres villes subissent des coupures répétées pouvant durer des journées entières en cas de perturbation au Nigeria. Les militaires se rendent aux urnes au Congo-Brazzaville. Les forces de défense et de sécurité votent par anticipation aujourd'hui pour la présidentielle de dimanche. Les précisions de Jacques Aristide.
Militaires, policiers et gendarmes ont jusqu'à 17h heure locale pour accomplir leur devoir civique. À Delizier, la troisième ville du pays et deuxième zone militaire, il sont 1203 inscrits qui doivent se rendre dans le seul bureau de vote ouvert pour l'occasion. Henri Bouka, président de la commission électorale, souligne que ce vote anticipé est une première dans le pays, mais ajoute que la loi l'exige. Tous les partis d'opposition ont critiqué ce vote anticipé comme une volonté de fraude en faveur du président sortant qui a déjà cumulé plus de 36 ans au pouvoir. D'après la commission électorale, les résultats du vote anticipé seront compilés et dépouillés en même temps que ceux de l'élection du 21 mars. Il y a plus de 2,5 millions d'électeurs inscrits pour une population estimée à 5 millions d'habitants. À 77 ans, le président Denis Sassou Nguesso fait face à 6 autres candidats, dont 2 de ses anciens ministres, Mathias Deson et Guy-Brice Parfait-Colella, devenus ses farouches opposants.
Le président tunisien Kais Saied est en visite en Libye pour des entretiens avec le premier ministre intérimaire Abdelhamid Deiba et le président du conseil présidentiel Mohamed Al-Manfi qu'il a accueilli à l'aéroport de Tripoli. Nathalie Barge.
À Tripoli, à moins d'une heure d'avion de Tunis, le président tunisien Kais Saied s'est entretenu avec le président du conseil présidentiel Mohamed Al-Manfi, puis avec le premier ministre de transition Abdelhamid Deiba. Les deux dirigeants libyens ont salué une visite historique. La Libye est un partenaire économique et sécuritaire crucial pour la Tunisie, a insisté M. Saied, qui a affirmé sa volonté de faire renaître et développer les accords bilatéraux. C'est une visite inédite depuis près d'une décennie pour un chef de l'État tunisien. Abdelhamid Deiba, tout comme Mohamed Al-Manfi, a officiellement pris ses fonctions lundi dans la foulée de sa présentation de serment à Tobrouk, dans l'est du pays. Le nouveau gouvernement libyen s'est installé le lendemain à Tripoli avec pour objectif premier d'unifier les institutions en vue d'élections nationales en décembre prochain.
Par ailleurs, les autorités judiciaires libyennes ont annoncé mercredi qu'elles allaient remettre aux autorités tunisiennes un deuxième groupe de femmes et d'enfants djihadistes tunisiens présumés à l'occasion d'une visite du chef de l'État tunisien mercredi dans ce pays voisin. Un groupe de 3 femmes et leurs 5 enfants avait été remis le 15 mars aux autorités tunisiennes au poste frontière de Ras Jedir. L'Union européenne a décidé de prolonger de 2 ans jusqu'au 31 mars 2023 sa mission navale Irini chargée de contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes en Libye. La prolongation de la mission sera confirmée lundi lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les funérailles de Goodwill Zwelithini, le roi des Zoulous, ont débuté en Afrique du Sud. Quelques centaines d'hommes en tenue traditionnelle ont marché à la mi-journée vers la morgue de Nongoma pour la levée du corps avant son enterrement. Selon les rites Zoulous, sa dépouille doit être plantée en terre dans la nuit en présence d'hommes seulement. Un hommage national lui sera rendu jeudi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur. Il a promis qu'il en paierait le prix, provoquant immédiatement l'indignation de Moscou. Eric Manirakiza.
Le président de la chambre basse du Parlement russe, proche de Vladimir Poutine, a dénoncé, je cite, « de l'hystérie due à de l'impuissance ». Poutine est notre président et une attaque contre lui, c'est une attaque contre notre pays, a écrit Vyacheslav Volodin sur son compte Telegram. Il ajoute que Biden a insulté les citoyens russes. Washington a déjà sanctionné début mars cet responsable russe en réponse à l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Le renseignement américain est aussi en train de mener un examen de différents autres faits dont les États-Unis soupçonnent déjà la Russie. Les autorités américaines ont par ailleurs accusé des acteurs liés au gouvernement russe de nouvelles ingérences électorales en 2020 après celles de 2016. Vladimir Poutine en paiera les conséquences, a également dit Joe Biden sur la chaîne américaine ABC.
La Chine a fustigé ce mercredi la collusion des États-Unis et du Japon pour s'ingérer dans ses affaires intérieures au lendemain d'une mise en garde de Washington et de Tokyo contre le comportement déstabilisateur de Pékin en Asie. Par ailleurs, le président Joe Biden a estimé qu'il serait difficile de retirer tous les soldats américains d'Afghanistan d'ici le 1er mai, comme prévu dans un accord avec les talibans qui l'ont aussitôt mis en garde contre tout retard. Les talibans ont menacé mercredi de conséquences si les États-Unis ne procédaient pas au retrait de leurs troupes à la date butoir du 1er mai. L'ancien président américain Barack Obama a appelé mercredi à cesser la violence contre les Asiatiques après les fusillades qui ont fait 8 morts, dont 6 femmes d'origine asiatique, dans 3 salons de massage de la région d'Atlanta. Un suspect, Robert Aaron Long, âgé de 21 ans, a été appréhendé et inculpé de meurtre. Il a affirmé que ces attaques n'étaient pas racistes, a indiqué la police mercredi matin. Graham Yvon Clark, un jeune homme de 18 ans à l'origine du piratage de comptes de célébrités sur Twitter et d'une escroquerie au Bitcoin l'été dernier, a été condamné à 3 ans de prison ferme assorti de 3 ans de liberté conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé hier un tribunal de Floride où réside Monsieur Clark. Le jeune homme avait plaidé coupable. Âgé de 17 ans au moment des faits, il a été condamné au titre de la loi sur les jeunes délinquants en vigueur en Floride. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Au Mali, EDM, la compagnie nationale d'électricité, est à la croisée des chemins, a reconnu lors de sa prise de fonction son nouveau directeur général Oumar Diarra. Avec près d'un demi-milliard d'euros de dettes, plus que le budget de la défense de ce pays en guerre, l'énergie du Mali ne cesse de creuser son déficit. Infrastructure vétuste et déficit chronique empêchent toute réforme de la compagnie surnommée Énergie du Mali à Bamako. En 2016, le taux national d'accès à l'électricité était seulement de 38%, avec plus de 40 délestages majeurs par an. Au Sénégal, le processus de renégociation du contrat de concession de l'autoroute de l'avenir entamé en 2019 entre l'État sénégalais et le groupe CECA a finalement abouti. Le pays est désormais actionnaire à hauteur de 25%, soit 19 milliards de francs CFA, suite à la convention signée le 16 mars par le ministre des Transports terrestres et le président directeur général du groupe CECA. La Côte d'Ivoire a levé le 16 mars sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine 44 milliards de francs CFA après émission simultanée de bons et d'obligations du Trésor à maturité 91 jours et 5 ans. Cette opération de mobilisation de l'épargne doit assurer le financement du budget de l'État ivoirien dans le cadre de ses plans de relance économique.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire et bonsoir à tous. On commence par le football en Afrique. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, désigné vendredi à Rabat nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, affiche l'ambition de remporter le trophée mondial. Une équipe africaine doit gagner la Coupe du Monde dans un avenir proche, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à Johannesburg. Aucune équipe africaine n'a dépassé les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de football depuis sa création. Seul le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 sont parvenus à ce stade de la compétition. En Europe, la Ligue des Champions, l'avant-centre français du Real Madrid, Karim Benzema, marqué hier contre l'Atalanta Bergame, son 5e but de la saison en Ligue des Champions pour un total de 70 dans la compétition reine du football européen. Le Real Madrid a éliminé l'Atalanta Bergame 3-1. À l'aller, c'était 1-0. Manchester City s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Mönchengladbach 2-0 comme à l'aller mardi soir à Budapest en 8e de finale retour. L'attaquant belge Kevin De Bruyne a inscrit son premier but de la saison en Champions League d'une frappe splendide sous la barre. Ce soir, on saura les derniers qualifiés pour les quarts de finale. Le Bayern Munich devrait avoir la tâche facile face à la Lazio de Rome en consolidant sa victoire à l'aller 4-1. L'Atlético Madrid qui a perdu à l'aller 1-0 contre Chelsea essaiera de renverser le compteur pour rester dans la course. Qui affrontera qui en quart de finale de la Ligue des Champions? Eh bien, le tirage au sort aura lieu vendredi en Suisse après la fin demain des 8e de finale de l'Europa League. En Espagne, le président de la Liga, Javier Tebas, a indiqué mercredi avoir bon espoir qu'une partie du public revienne dans les stades des clubs professionnels de football en première division et deuxième division en avril. Le patron de la Liga a toutefois tempéré ses propos, précisant que les spectateurs reviendront si les circonstances le permettent. Enfin, Tiger Woods, la superstar du golf hospitalisée depuis le 23 février, date de l'accident de voiture qui l'a gravement blessé à la jambe droite près de Los Angeles, a annoncé mardi être rentré chez lui en Floride où il poursuit sa convalescence. Et c'est tout pour les sports.
Merci Eric. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Tchad, après avoir été reçu par le président de la République, qui lui a valu du lynchage sur les réseaux sociaux du parti Les Transformateurs, le docteur Succès Masra et quelques membres du bureau exécutif ont animé une conférence à N'Djamena. Une occasion pour le jeune opposant farouche au président Idriss Déby Itno d'expliquer à sa base les sujets discutés avec le président Déby. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Une conférence de presse qui a pris l'allure d'un meeting puisque les militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège de la dite formation politique pour exiger de leur leader des explications de l'audience qu'il a eue avec le président Déby.
Écoutez, s'il vous plaît, soyez bienveillants avec les journalistes. C'est d'abord pour eux que nous sommes là, pour à travers eux parler au reste des Tchadiens. Ta liberté. Ta liberté. C'est la plus belle phrase du monde.
Pour beaucoup, Dr Succès Masra a trahi leur conscience à l'exemple de ce militant très en colère.
Moi, j'étais l'ex-policier, mais j'ai donné ma vie pour Masra, mais il m'a vraiment déçu. Comment il est parti pour trouver le président sans nous dire non. Chez moi, là, je peux dire que c'est une trahison.
Non, c'est pas trahison.
Ah, tous les Tchadiens ne veulent pas d'Idriss Déby parce qu'ils gèrent mal le pays. On a souffert. On veut Masra, mais maintenant Masra va dessus.
Déception aussi des autres militants indécis qui ont appris la nouvelle sur la toile. Mais après avoir suivi attentivement le compte-rendu de leur leader, ils se disent convaincus pour continuer la lutte.
Toute la nuit, là, j'ai fait réfléchir qu'est-ce qui se passe. Moi, ça va être pas encore là-bas. J'ai pas dormi. Mais apparemment, ce matin, je suis venu pour lui voir une personne pour lui poser la question. Et c'est à tout hasard, c'est moi qui suis tombé sur la conférence. Maintenant, j'ai de l'information. Moi, j'ai écouté là. Il n'y a rien de mauvais.
Et je suis sûre et certaine que si hier, il nous avait dit qu'il allait aller voir le président, personne ne l'aurait laissé partir.
Moi, je suis pas choqué. Je connais l'idéologie de mon président. Je suis pas choqué. J'ai confiance qu'il va jamais nous trahir.
Aujourd'hui, je suis fier d'avoir un leader charismatique.
Il nous a même juré qu'il ne nous trahirait jamais.
Sans vous mentir, les transformateurs et les présidents, nous ne sommes pas prêts à vendre notre conscience.
Pour le porte-parole du MPS parti au pouvoir, Maître Jean-Bernard Padaré, Dr Succès Masra n'est pas un ennemi du président de la République et donc il doit le recevoir comme tout autre Tchadien.
Il est notre adversaire. Il ne partage pas notre option politique. C'est son droit le plus absolu. Il a des propositions à faire pour le pays. Les bonnes, si le président de la République estime qu'elle peut faire avancer le pays, eh bien, il les adoptera ou bien il les appliquera. Donc pour moi, justement, il faut qu'on atteigne une certaine maturité politique. Je vois comment il est lynché sur la toile. Je dis, je suis vraiment désolé.
Pour les organisations de la société civile, le fait que le président Déby accepte de rencontrer l'opposant Succès Masra n'est pas mauvais en soi. Mais ce qu'ils se sont dit qui est important. Sosten Bernoudi coordonne un mouvement citoyen.
Est-ce que Succès va continuer à maintenir sa position en réclamant l'alternance, en réclamant que les élections soient reportées? C'est tout le boulot d'étranglement. Il est vrai, le gouvernement, la présidence ont utilisé les images à leur fin. Mais quand on analyse, Succès a marqué un pas. Beaucoup d'analystes politiques disent si toutes les luttes au Tchad n'aboutissent pas, c'est parce que on verse dans le radicalisme.
L'opposant Succès Masra confirme qu'il va toujours gérer la rue jusqu'à ce que la justice et l'inclusion deviennent la règle. André Kodouma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les autorités affirment que la pandémie de coronavirus a entraîné une augmentation massive de la consommation d'alcool et des décès dus à l'alcool frelaté. Les associations de consommateurs ont manifesté lundi, affirmant que les autorités doivent faire plus pour lutter contre la contrefaçon de l'alcool et des médicaments. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka Yaoundé, le récit est de Michel Joseph.
Des centaines de personnes sont venues assister lundi à la saisie de ce que les autorités ont présenté comme des faux whisky au marché des ligues Edzoa à Yaoundé. la capitale. Les responsables du ministère du Commerce, des douanes et de la police se sont tous mobilisés contre les faux alcools pour marquer la journée mondiale des droits des consommateurs. Madame Pauline Biloua est membre du Conseil national des consommateurs, un organisme gouvernemental. Selon elle, le mois dernier, des milliers de bouteilles de fausses boissons alcoolisées ont été saisies dans au moins 200 magasins et 350 bars à travers le pays.
Depuis que le Covid-19 a commencé au Cameroun, beaucoup de gens sont devenus pauvres. Certains vont acheter du whisky frelaté qui coûte très moins cher et qui a des effets négatifs sur leur santé, qui cause des décès de beaucoup d'entre eux. Et je souhaite vraiment que ces gens soient vraiment éduqués sur les effets négatifs que ce whisky peut les apporter.
Parallèlement, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mardi contre la vente de produits contrefaçons. Delors Magellan Kamzoum Kangin est président de la Ligue nationale des consommateurs. Il dit avoir organisé la manifestation parce que le gouvernement ne fait pas assez pour protéger les consommateurs.
Les consommateurs achètent ce qu'ils voient et ce qui est moins cher. Donc, du coup, ils consomment des produits qui sont contrefaits, qui ne restent pas la norme. C'est une imitation, c'est une copie. Le Camerounais n'est pas assez vigilant pour constater. Il y a naturellement le plaidoyer, il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, et il y a la collecte des informations sur les biens et services dans les marchés. Et est-ce que le traitement...
Le Conseil médical national affirme qu'en 2020, considéré comme l'année du Covid, les trois quarts des 7500 décès dus à des problèmes de foie au Cameroun étaient la conséquence de la consommation d'alcool frelaté. La police affirme que certains produits sont fabriqués à partir d'éthanol pur ou d'alcool acheté ou volé dans les pharmacies et les hôpitaux. Les faux médicaments sont un autre problème. Le gouvernement a fait état de près de 380 personnes mortes des suites d'utilisation de faux médicaments en 2020 contre 223 en 2019. Les chiffres réels sont probablement plus élevés car moins de 30% des malades se rendent dans les hôpitaux. Certains achètent des médicaments vendus sur les trottoirs ou dans les marchés et d'autres préfèrent la médecine traditionnelle. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, dit avoir ordonné une répression sévère de la vente des faux médicaments et alcool.
Il nous faut maintenant remonter la chaîne pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d'approvisionnement et naturellement ce que nous allons faire de façon évidente ici et maintenant, c'est que nous allons tout saisir.
Il a aussi appelé les Camerounais à signaler au poste de police le plus proche toutes les personnes soupçonnées de produire ou de vendre des produits contrefaits. Sera-t-il entendu? Il faudra refaire le point à la prochaine journée mondiale des droits des consommateurs.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Penchons-nous à présent sur les élections aux Pays-Bas, ou plutôt sur l'observation d'élections en Europe par des Africains. Généralement, c'est l'inverse qui se fait. Pour en parler, John Lindon a pu joindre Mohamed Ali Oumed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, qui séjourne en ce moment aux Pays-Bas, justement en tant qu'observateur électoral.
Un pays du Sud qui s'occupe en fait d'une mission d'observation dans un pays du Nord, c'est une des premières. Et il était temps que le pays du Sud se réveille parce que nous sommes tous, pour commencer, des êtres humains et nous avons autant de connaissances que le pays du Nord. Donc aujourd'hui, donc nous observons, nous allons dans le bureau de vote et nous parlons avec généralement avec le président du bureau et nous posons aussi quelques questions sur les électeurs. Et nous avons constaté donc des visites, donc ce déroulement des opérations dans le calme. Il faudra souligner que ces élections législatives, ils ont étalé sur 3 jours, donc c'est une situation due au Covid-19. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc nous sommes présents donc, dans les différents bureaux de vote dans les alentours de la ville d'Amsterdam et Amsterdam aussi.
Qu'est-ce que l'Afrique, de manière générale, ou plutôt les pays africains, peuvent tirer comme leçon dans l'organisation des élections et même en termes d'observation des élections?
Nous avons à apprendre des uns et des autres. pas non seulement le pays du Sud qui va apprendre du pays du Nord, mais le pays du Nord aussi pourra apprendre des pays du Sud. Et là, ce que nous avons constaté, c'est que les urnes installées dans les différents bureaux de vote ne sont pas transparents, alors que ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, tous les urnes sont transparents. Et ça, c'est des choses que le pays du Nord doit apprendre de l'Afrique. Donc après, c'est que nous avons aussi remarqué que le pays du Nord, généralement, le système électoral est informatisé, ce qui n'est pas le cas dans le pays du Sud, parce que nos populations, généralement, ne sont pas éduquées, donc les taux d'alphabétisation donc ne sont pas à 100%, donc comme dans le pays du Nord. La différence ici, comme la population, c'est une population éduquée, plus ou moins, donc il y a des bulletins de vote, mais il n'y a pas d'enveloppe, donc c'est une grande affiche et sur laquelle les électeurs marquent, en fait, sur leur parti, donc le parti à qui ils doivent voter, donc ils marquent juste un croix dans les carrés, donc qui est destiné, donc qui est passé juste devant le parti politique. Mais chez nous, donc c'est les couleurs du bulletin de vote qui fait la différence. Donc les électeurs ne sont pas éduqués, ils choisissent la couleur de tel ou tel parti et ils mettent dans une enveloppe, et donc les isoloirs et l'urne, c'est le même système, mais sauf que chez nous, l'urne est transparent et pas dans le pays, pas en Hollande aujourd'hui.
Alors, parlant toujours d'élections, et vu ce qui vient de se passer ici aux États-Unis, c'est-à-dire un président sortant qui refuse de reconnaître sa défaite, peut-on espérer dans l'avenir avoir de plus en plus d'observateurs africains lors d'élections dans les pays riches?
Oui, il est temps que le pays du Sud se réveille et qu'on arrive à observer les élections, parce que les pays du Nord n'ont pas à nous donner des leçons.
Mohamed Ali Oumed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti. Ici aux États-Unis, les législateurs peinent à trouver des solutions à l'afflux de mineurs non accompagnés à la frontière américano-mexicaine. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point sur cette impasse sur la question migratoire. Le récit est signé Jacques Aristide.
Comme ces enfants migrants détenus dans des tentes à la frontière américano-mexicaine, ils sont environ 4200 mineurs non accompagnés arrivés ces dernières semaines. Les autorités américaines sont débordées, l'administration Biden est sur la défensive. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
We did not expel them.
Nous ne les avons pas expulsés comme l'a fait l'administration Trump. Nous avons accueilli ces enfants et les avons placés sous la garde des services de santé et sociaux jusqu'à ce que nous puissions les confier à un parent.
La récente flambée à la frontière pourrait être due en partie à la perception selon laquelle l'Amérique, sous la nouvelle administration Biden, est désormais plus accueillante pour les demandeurs d'asile. Et maintenant, l'Agence fédérale de gestion des urgences intervient pour aider. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
C'est l'une des étapes qui, selon le président, aiderait, mais elle ne serait pas l'ultime solution. Elle aiderait à accélérer le processus, à garantir que les personnes qui traversent les frontières ont accès aux soins de santé et aux soins médicaux. De toute évidence, les chiffres sont énormes et c'est un grand défi.
Pour des élus républicains qui étaient en tournée à la frontière, le président Biden a aggravé le problème. Ces politiques, d'après certains républicains, permettent à des terroristes présumés d'entrer aux États-Unis. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
La santé de cette nation, la sûreté et la sécurité des Américains et de notre frontière sont les travaux du président.
Une solution à long terme aux problèmes migratoires sera encore plus difficile à trouver. Les démocrates de la Chambre des représentants prévoient d'adopter cette semaine des projets de loi qui protégeraient les travailleurs agricoles et empêcheraient de déporter les immigrants sans papier venus enfants aux États-Unis. Deux petites parties du plan de réforme de l'immigration de Biden qui offrirait un statut juridique à la plupart des 11 millions d'immigrants qui vivent dans l'ombre. Bob Menendez, sénateur démocrate.
Cela modernisera notre système, offrira une voie d'accès à la citoyenneté pour ces travailleurs acharnés au sein de nos communautés, réunira les familles et augmentera les possibilités d'immigration légale.
Mais aucune chance pour ce projet de loi d'être adopté au Sénat, où les démocrates détiennent une très faible majorité. De nombreux républicains rejettent le texte qu'ils qualifient d'amnistie pour les illégaux. Norm Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Il y a des éléments sur le front de l'immigration qui pourraient recevoir un soutien bipartisan. Le programme DACA, qui protège d'une expulsion, est certainement en tête de liste. Il y a eu un large soutien bipartisan pour les Dreamers. Les problèmes les plus épineux concernent la sécurité à la frontière et la citoyenneté pour les personnes qui sont aux États-Unis depuis longtemps.
Les deux projets de loi de la Chambre des représentants seront mis au vote au Sénat le mois prochain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de notre...